Polysécur, épisode spécial. Je suis accompagné de Julien. Est-ce que tu peux te présenter?
Oui, alors bonjour, je suis Julien Levrard. Je suis le CISO ou le RSSI, donc directeur cybersécurité d'OVH Cloud. Et mon périmètre d'action, c'est toutes les entités couvertes par la société OVH, à l'exception de celle des États-Unis, donc OVH US, qui est une entité indépendante. Et du coup, j'encadre l'équipe sécurité qui sécurise le système d'information d'OVH Cloud et qui accompagne toutes les équipes produits dans la mise en place des dispositifs de sécurité pour nos clients et nos équipes commerciales et support quand nos clients ont des questions ou des incidents de sécurité.
Très intéressant. C'est avec nous aujourd'hui pour parler de souveraineté numérique. Ce sujet-là s'est invité de par des actions hostiles du gouvernement américain. Donc, ça leur a ramené ça dans la conversation. Ça fait plusieurs années que je m'y intéresse, mais disons, la passion publique pour ce sujet-là n'était pas présente. Là, la passion publique, elle est là. Et j'aimerais qu'on démystifie ensemble beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent dans l'espace public qui sont pas tout à fait exactes ou qui sont pas bien alignées. Fait que j'aimerais ça justement pour clarifier puis qu'on ait une discussion à l'avenir sereine sur le sujet. Donc, je vais te laisser commencer à expliquer, qu'est-ce que le cloud, puis ensuite, qu'est-ce que la souveraineté numérique. Ce sont quand même deux piliers de la conversation qui sont très importants à maîtriser, parce que sans des définitions claires et comprises, on peut dire tout et n'importe quoi sans arriver nulle part.
Alors, effectivement, le cloud, chacun peut avoir un petit peu sa définition, mais il y a tout un ensemble de briques communes qui, du coup, doivent assez bien définir la notion. Ça consiste à transférer, à fournir un service, donc on dit as a service à l'époque, c'est devenu un petit peu ringard maintenant, mais ça s'utilise toujours, de transférer les capacités de traitement informatique chez un fournisseur qui va mettre en place une certaine mutualisation et une spécialisation pour proposer des services de meilleure qualité, moins chers, plus standardisés, qui vont permettre d'avoir accès à des technologies qui étaient en général pas accessibles pour des entreprises normales. Il fallait des très très grandes entreprises pour avoir accès à certaines technologies. Aujourd'hui, le cloud va permettre, avec cette mutualisation et cette spécialisation des acteurs, de proposer à tout le marché des technologies qui n'étaient pas accessibles par ailleurs. Nous historiquement chez OVH Cloud, on est issu de l'hébergement web, puis de l'hébergement de serveurs dédiés physiques. Du coup, c'était déjà du cloud à l'époque où on n'avait pas toutes les fonctions qui existent aujourd'hui. On mettait déjà à disposition ces briques d'hébergement, serveurs dédiés ou hébergement web, pour héberger certaines fonctions, en général celles qui étaient directement exposées aux internautes à l'époque. Maintenant, évidemment, l'écosystème et la technologie s'est énormément développé, et on a toutes les briques qui permettent d'opérer un système d'information, qui permettent de faire du stockage aussi bien objets que de fichiers, des capacités de traitement, des capacités d'avoir des réseaux privés à l'intérieur des équipements des fournisseurs, la capacité d'avoir des bases de données managées, etc. Et du coup, la force du cloud, c'est d'offrir tout ce catalogue de services aux entreprises qui vont être capables de combiner, en allant piocher dans les différents catalogues et en interconnectant ces services entre eux, de composer tout un système d'information qui va répondre à leurs besoins d'applications, de traitement métier. Et ce qui fait vraiment la différence entre le cloud et avant ce qu'on appelait l'outsourcing ou l'infogérance externalisée, pour utiliser les termes français, c'est que maintenant on est sur des technologies standards qu'on va commander et qui sont déjà prêtes, elles ne sont pas montées sur demande et sur mesure, et il y a tout un ensemble de briques qu'on appelle des enablers ou de la glue qui vont permettre de consommer ces services-là de manière relativement unifiée dans une expérience qui est agréable et facile pour l'utilisateur.
Oui, et tu me rappelles, parce que as a service était un vocable qui est apparu, mais avant ça, c'était software defined quelque chose. On avait vraiment tout cet environnement-là. Fait qu'on l'évoquait, mais on changeait avec le temps. Donc, c'est de cet environnement, le software defined, donc que tout est défini par le logiciel, que le cloud actuel est né, qui a changé justement, comme tu dis, de l'infogérance classique où on est un impartiteur, comme on dit au Québec, à venir à un système où on est plus autonome comme client de ces infrastructures-là. On est capable de gérer davantage que de sous-traiter l'ensemble du travail. Ça me rappelle les souvenirs de Software Defined, là, par ailleurs, là, ça m'a comme rappelé. Et de là, la suite, c'est la souveraineté numérique qui s'est invitée dans les conversations et donc beaucoup d'experts de fauteuils qui sont apparus. Fait que c'est pour ça aussi qu'on en parle là. Donc, est-ce que tu peux nous donner une bonne définition? Parce que vous avez quand même des racines qui, comme tu m'expliquais en off, qui ne sont pas nées de la souveraineté numérique, mais qui, incidemment, ont maintenant des conséquences importantes sur votre capacité d'offrir une offre souveraine.
Alors, ouais, effectivement, en fait, c'est directement lié à la nature du cloud. À partir du moment où on confie des données et des traitements à un tiers, bah, effectivement, on prend la décision de dépendre de ce tiers-là. Enfin, c'est le choix de quand on externalise quelque chose, on se crée une dépendance à un fournisseur pour des bonnes raisons. Mais du coup, on se crée cette dépendance. Et il y a depuis quelques années, il y a effectivement des inquiétudes juridiques, légales, opérationnelles, qui commencent à se structurer à partir du moment où les gens développent cette dépendance à un certain nombre d'acteurs, de se dire bah, qu'est-ce qui se passerait si l'acteur augmentait ses prix, si l'acteur changeait ses conditions contractuelles, si l'acteur décidait de donner accès à mes données à un tiers, etc. Et du coup, ces questions, elles ont commencé à mûrir dans la tête du marché, dans la tête des clients, et petit à petit, il y a une inquiétude liée à la maîtrise, et au contrôle sur toutes ces briques technologiques qu'on a décidé d'externaliser chez des sous-traitants, donc chez des fournisseurs de cloud. Nous, chez OVH Cloud, on faisait de la souveraineté avant que le terme soit à la mode, avant même qu'il existe. Alors le mot existait, mais il s'appliquait pas vraiment au cloud. On a toujours eu comme approche industrielle d'avoir une très forte maîtrise pour nous, c'est-à-dire être en contrôle très fort sur les technologies qu'on opère. D'ailleurs, on fabrique nos serveurs, on opère nos data centers dans des data centers qui nous appartiennent. On fabrique nos serveurs, on commande des composants, on les assemble dans des usines à nous. Donc on en a une en France et une au Canada. Du coup, pour fabriquer les serveurs, les préparer, les racker, brancher le réseau, et ensuite on livre ces serveurs-là dans les data centers du groupe, où on les branche juste sur l'électricité et le réseau, et ça y est, on a nos serveurs qui fonctionnent. Du coup, on a cette exigence de maîtrise extrêmement forte. Au début, on l'a fait pour des raisons économiques, pour des raisons opérationnelles, pour avoir une capacité à vraiment maîtriser le contenu des serveurs qu'on utilisait, d'optimiser les coûts, etc. Mais on s'est rendu compte que cette maîtrise de bout en bout, cette intégration verticale de la chaîne de valeur, elle nous donnait aussi la possibilité de gérer certains risques liés à nos dépendances. On avait la possibilité de réingénérer les serveurs qu'on fabriquait si jamais on avait un problème avec le fournisseur d'un type de puce, d'un type de processeur, d'un type de GPU. On avait cette souplesse et cette agilité qui nous permettait de construire des serveurs alternatifs, des configurations alternatives qui permettaient de faire à peu près la même chose, mais autrement que de la manière dont on l'avait conçu initialement, ce qui nous donnait une certaine résilience face à des risques de notre supply chain. C'était vraiment un objectif stratégique pour nous d'intégrer la chaîne de valeur pour justement avoir cette agilité et cette résilience face à une chaîne d'approvisionnement qui peut être compliquée. Il y a quelques années, c'est devenu un sujet d'inquiétude pour le marché. Ça a commencé à devenir un sujet d'inquiétude pour le marché. Et en fait, on s'est rendu compte, et du coup, on l'a cultivé par la suite, que cette agilité, cette capacité à maîtriser nos risques en termes de supply chain, de dépendance, de maîtrise de nos technologies, on était capable d'en faire bénéficier à nos clients et de leur apporter ces caractéristiques-là et de mettre en lumière notre agilité et notre résilience et l'injecter dans la valeur qu'on propose à nos clients pour leur permettre de choisir où est-ce qu'ils sont hébergés, de comprendre quelles technologies ils utilisent, d'avoir tous les mécanismes qui permettent de rentrer et de sortir facilement sans avoir des contraintes, et du coup apporter à nos clients un maximum de caractéristiques et de leviers pour que eux aussi puissent piloter leur dépendance vis-à-vis d'OVH Cloud et vis-à-vis du cloud en général. Et il s'avère que pendant quelques années, ça a été un sujet auquel étaient sensibles un certain nombre d'acteurs, notamment les administrations publiques, qui avaient besoin d'avoir ce contrôle et ce contrôle dans la durée parce qu'ils traitent des données des citoyens et du coup ils ont cette responsabilité vis-à-vis des citoyens. Un certain nombre de sociétés privées qui avaient des besoins en termes de confidentialité, de concurrence vis-à-vis d'autres acteurs et qui avaient besoin justement de cette autonomie stratégique et cette capacité à piloter vraiment leur dépendance aux technologies cloud en utilisant nos services. Et petit à petit, et en particulier récemment avec les dernières évolutions géopolitiques, c'est devenu un sujet qui intéresse quasiment toutes les entreprises et aujourd'hui tout le monde s'intéresse à cette capacité à piloter leur dépendance pour être capable d'être plus agile et plus résilient.
Ouais, ne pas faire affaire à des coups d'émotion de certains pays qui peuvent justement nous créer des craintes de ce côté-là. Et le Canada étant très touché actuellement par ces craintes-là et de façon très marquée. Ça, c'était la chaîne matérielle, mais il y a aussi la chaîne logicielle que vous avez qui offre aussi ce degré-là d'autonomie et certaines d'indépendance par rapport à des fournisseurs qui pourraient venir vous contraindre.
Alors, tout à fait. On applique la même logique sur notre logiciel. OVH Cloud, on est 3000 salariés dans l'entreprise. Il y a une petite moitié de ces 3000 personnes, c'est des développeurs ou des techniciens, même. Quasiment tous les techniciens sont aussi développeurs parce que une grosse partie de notre travail, ça consiste à développer du code qui va opérer des primitives technologiques, qui va orchestrer leur déploiement, qui va gérer le monitoring, qui va gérer la supervision, qui va gérer l'auto-remédiation dans certains cas quand il y a un problème pour le corriger et qui va orchestrer et interfacer toutes les différentes briques. Donc les composantes de base, on les écrit pas toutes. Ça sert à rien de réécrire un hyperviseur, ça sert à rien de réécrire un Kubernetes, mais par contre on va rajouter toute une couche de valeur qui va permettre soit de rajouter des fonctionnalités quand elles n'existent pas dans les produits, soit de orchestrer et s'assurer que l'expérience du client va être extrêmement agréable et fluide quand il va consommer nos services et globalement on va industrialiser toute la difficulté de monter la technologie soi-même, donc plutôt que de passer des mois à réussir à faire marcher quelque chose, à faire marcher une technologie dans son contexte, nous on va le déployer, on va avoir des équipes de R&D qui vont tester tous les cas limites de chaque technologie, qui vont tester les méthodes de déploiement, qui vont écrire tous les scripts qui vont permettre d'industrialiser toutes les opérations IT qui vont être autour de la brique et qui derrière vont l'intégrer dans une expérience unifiée pour le client. Ce qui fait que le client, il va commander une base de données managée et derrière, il va y avoir toute une automatisation, par exemple, qui va se mettre en place pour préparer le serveur, déployer la base de données, la préconfigurer avec les données spécifiques du client et ensuite lui donner toutes les interfaces qui va lui permettre de mettre ses données. Et du coup, c'est ça notre métier. Mais par contre, on va utiliser tout un ensemble de briques qui sont soit des technologies d'éditeurs, on travaille avec des grands éditeurs du marché, on travaille avec VMware, avec Broadcom, on travaille avec MongoDB, on travaille avec Microsoft aussi, soit des technologies open source qu'on va intégrer, PostgreSQL, Debian, etc. Donc on va intégrer et permettre à nos clients d'utiliser sur notre cloud. Et tout ça dans une expérience unifiée et industrielle où en fait l'utilisateur il n'a pas plus rien à faire puisqu'il va avoir une infrastructure as a service et derrière il va déployer son système d'information, il va gérer ses applications et son SI. Mais par contre, toutes les couches basses de gestion d'infrastructure, on va s'en occuper. En fait, on va écrire les scripts et toutes les applications qui vont permettre de déployer et de gérer toute l'infrastructure pour lui.
Oui, et tu mentionnais aussi que vous contribuez, et mentionnais comme tu dis, beaucoup de code. Ce code-là est aussi contribué parce qu'il y a beaucoup de code open source qui est utilisé. Donc, vous faites partie de cet écosystème-là où vous retournez à la communauté une partie de ce que vous faites.
Alors, on utilise évidemment du code open source. On est actif dans un certain nombre de projets et de communautés où on va soumettre des patchs, soumettre des évolutions. Et on a également des projets open source qu'on va porter. Si vous allez sur le GitHub d'OVH Cloud, vous allez voir tout un ensemble de projets open source sur lesquels on contribue à la communauté. Et c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler pour contribuer encore plus à des projets et financer des projets open source. C'est un sujet sur lequel on est très actif en ce moment pour pas être juste consommateur-contributeur d'open source, mais vraiment beaucoup plus intégré formellement dans les environnements et les écosystèmes open source.
Très intéressant, puis de mon point de vue, très, très pertinent de contribuer, parce que je pense que c'est une partie de l'avenir, notamment la souveraineté numérique, fait partie de l'open source, fait partie de cet univers-là, et cette contribution collective qu'on en fait, parce que c'est quand même un bien commun dans lequel on travaille. Maintenant qu'on a établi les bases de souveraineté numérique et de cloud, comment ça s'actionne? Parce qu'il y a beaucoup de discussions et beaucoup de mythes qui circulent sur le marché. J'aimerais ça voir ton point de vue par rapport à ça, puisque de par la force des choses, vous êtes devenu un acteur important de ce nouveau vocable de souveraineté numérique. Comment vous voyez ça, puis comment ça se place, cet élément-là, dans votre offre, puis comment vous essayez de lutter contre ces mythes-là qui circulent?
Alors, effectivement, c'est sur la souveraineté, il y a toujours eu beaucoup de marketing et de marketing de la peur. Probablement, on en a fait aussi un petit peu. On n'est pas forcément complètement innocent, mais les autres en ont fait plus que nous. Effectivement, on a une tendance du marché de soit faire très très peur, soit de proposer des solutions qui sont parfaites et qui règlent complètement le problème. Et du coup, il y a une approche extrêmement manichéenne on n'est pas souverain et on est complètement souverain. La réalité, elle est beaucoup, comme souvent, elle est beaucoup plus nuancée. Et en fait, la souveraineté, c'est plus, faut plutôt voir ça comme une démarche de gestion d'un certain nombre de caractéristiques des services qu'on rend, qui permettent de savoir comment on adresse les risques auxquels on fait face et quelles sont les actions qu'il faut mettre en œuvre quand le contexte change. Globalement, nous on a l'habitude, mais c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le discours un peu de nos concurrents, mais surtout des analystes, des experts sur le sujet. C'est la souveraineté. Globalement, il y a un aspect technologique. Est-ce qu'on émet des technologies qu'on utilise? Il y a un aspect opérationnel. Comment le service est réalisé? Où sont localiser les gens qui vont opérer le service, de qui ils dépendent, à qui ils rendent des comptes, quels sont les contextes légaux et juridiques auxquels ils sont soumis. Il y a la localisation précise des données à proprement parler, où est-ce qu'elles sont physiquement, où est-ce qu'on a mis les serveurs, est-ce qu'on sait où c'est, est-ce qu'on sait par où passent les data quand elles sont transférées d'un service au backup, etc. Et enfin, il y a le cadre légal du contrat de service qui est opéré, qui doit être le plus clair possible pour expliquer aux clients à quel risque ils font face d'un point de vue légal. Et du coup, ça, c'est les quatre grands thèmes sur lesquels on peut travailler. Après, évidemment, ça se décline dans tout un tas de mesures qui peuvent être contractuelles, technologiques, organisationnelles, etc., qui vont permettre de donner une vision vraiment transparente sur les moyens qu'on met en œuvre et les risques auxquels on peut faire face. Quand on dit la souveraineté, c'est pas un risque, c'est une famille de risques qui veut dire plusieurs choses. Typiquement, me protéger, si par exemple je fais de la vente en ligne, je suis un acteur de la vente en ligne, héberger mes données chez un opérateur mondial qui est le leader mondial de la vente en ligne, est-ce que c'est de la souveraineté? Est-ce que c'est de la protection anticoncurrentielle? La question peut se poser de donner mes données d'un business à mon principal concurrent, même si on fait pas à la même échelle, j'ai un problème de maîtrise de mes risques. Se protéger contre les interceptions judiciaires, contre les interceptions de renseignements, se protéger contre les pirates informatiques, etc. Tout ça, c'est des sujets qui sont très proches de la souveraineté, mais c'est pas, il y a pas une définition complète de la notion. Du coup, ça veut dire qu'un client, d'un cloud provider ou d'un service de cloud, il doit réfléchir à quels sont ses enjeux pour lui, en termes concurrentiels, en termes légaux, qui est intéressé par avoir ces données, quels sont les risques auxquels il fait face, et derrière, il doit choisir le ou les opérateurs de cloud qui vont lui apporter des garanties et une capacité à changer si jamais le contexte évolue. Là, typiquement, on est dans un contexte qui évolue très vite. Si vous avez l'intégralité du système d'information d'une multinationale qui est chez un opérateur, quand bien même vous décideriez de tout sortir, c'est un projet qui prendra 10 ans. Du coup, vous avez zéro agilité. Vous avez des équipes qui sont formées pour cet opérateur de cloud en particulier. Ils ne savent penser que avec cet opérateur de cloud. Quand ils conçoivent un système, ils réfléchissent avec toutes les briques fournies par cet opérateur de cloud. Si vous voulez changer, vous devez d'abord changer les gens qui vont réfléchir. Du coup, c'est...
agilité. C'est les gens et les opérateurs sont clairement allié dans une technologie, puis pour l'avoir vu, parce que j'ai touché à toutes les technologies, incluant la vôtre, c'est très différent. La logique n'est pas la même. Il faut s'adapter à chacune des logiques, puis c'est très difficile, puis ça prend énormément de temps d'avoir une maîtrise complète. Donc, effectivement, il faudrait changer toutes les équipes au complet juste pour changer de fournisseur cloud, ou un énorme plan de formation pour les amener ailleurs. Là, c'est un projet en soi, puis c'est ce que les gens n'ont jamais compris. Quand il s'affilie à un fournisseur, ben il s'affilie aussi avec l'ensemble de son écosystème qui lui est spécifique. Et chacun a son, malheureusement ou heureusement, on veut le voir, ses particularités qui se transposent pas chez un autre. Puis juste pour moi, la plus grande chose, c'est l'identité de ne se transpose pas d'un à l'autre. Puis c'est l'un des éléments les plus sensibles. Puis cela, j'ai jamais. En tout cas, bref, c'est mon grief quand mettons disons les trois grands.
Et du coup, effectivement, on parle beaucoup des egress fees, etc. Mais en fait, la situation, elle est beaucoup plus compliquée que ça. Après, ce qu'il faut avoir en tête, parce que là, on dresse un bilan pour ce type d'entreprise qui est un peu inquiétant. Enfin, si on leur dit, ah ben non, là, vous êtes bloqué, vous pouvez pas sortir et c'est fini pour toute la vie. La situation, elle est pas si noire que ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, les technologies, il y a un biais dans l'innovation, il y a un loophole. L'innovation dans le cloud, c'est qu'une technologie, pour qu'elle devienne une technologie de masse et qu'elle soit un succès au niveau mondial, une des obligations, c'est de l'ouvrir. C'est-à-dire, pour qu'une techno fonctionne, une techno ait un succès commercial, il faut qu'il y ait des projets open source qui soient capables de l'utiliser, il faut qu'il y ait des alternatives open source, il faut que les différentes distributions Linux, les différentes technologies puissent parler, du coup, il faut que les spécifications soient ouvertes, et du coup, pour qu'une technologie marche, il faut que ça soit facile de la copier. C'est globalement. Du coup, ça veut dire que combien même pour un acteur qui inventerait une technologie, et il y a des super technologies inventées par des acteurs, par des hyperscalers, S3, c'est fantastique, Kubernetes, c'est fantastique, enfin, nous, on propose du S3 et du Kubernetes parce qu'on est convaincu de l'intérêt de ces technologies-là. Pour que ça marche, pour qu'ils réussissent à obtenir ce succès, ils ont besoin de l'ouvrir et du coup de fait d'écrouler les barrières à l'entrée. Et du coup, ce qui permet à des acteurs comme OVH Cloud ou des acteurs, on va dire, de taille moyenne qui n'ont pas la même échelle que ces entreprises-là, de rattraper leur retard assez rapidement sur les fonctionnalités et sur les technologies, être capable de s'aligner sur le besoin initial et du coup cultiver des caractéristiques alternatives. Donc typiquement, nos caractéristiques alternatives chez OVH Cloud, c'est le respect de l'environnement, c'est la souveraineté, c'est le coût, le ratio prix-performance, qui sont nos qualités à nous, notre expertise, notre spécificité. Par contre, il n'y a pas débat, le S3 d'OVH Cloud... il doit faire ce qui est attendu par un consommateur qui veut du S3. Il faut pas que quelqu'un, une DSI qui veut du S3, quand ils viennent chez EVH, on leur dise « Ah, nous, notre S3, il est très différent. Il va falloir passer 2 ans pour apprendre comment il fonctionne. » Mais vous allez voir, il est super aussi. Non, le S3, c'est devenu un standard. Il n'y a pas de débat. Du coup, nous, on doit s'aligner sur ce standard. On doit faciliter la vie de nos clients pour qu'ils puissent consommer ces services. On doit garantir un niveau de sécurité au top, on doit garantir tout un ensemble de choses qui sont dues aux clients. La sécurité, il n'y a pas de débat, on ne va pas faire de compromis sur un certain nombre de caractéristiques, les features, la sécurité, etc. Mais par contre, on va cultiver des différenciants qui vont permettre à des sociétés, à nos clients, de trouver un service qui correspond plus à leurs attentes, à leurs besoins, aux engagements qu'ils prennent vis-à-vis de leurs clients ou leurs problématiques, notamment de souveraineté. Du coup, aujourd'hui, une entreprise qui a besoin de stocker des très gros volumes de données en mode objet, mais qui n'a pas forcément envie que les administrations américaines, les services de renseignement américaines puissent aller demander à accéder aux données par un moyen plus ou moins compliqué, mais aller chez un hyperscaler américain, il y a un risque, il y a un doute. Si on veut des garanties, si on veut des certitudes, il faut choisir des opérateurs, des acteurs qui apportent des garanties pour montrer que ce doute n'a pas vraiment lieu chez eux et qu'il est sous contrôle. Et du coup, c'est ce que nous, évidemment, on propose.
Ouais, puis je trouvais intéressant parce que ça met la notion de doute. Puis dans tout, puis c'est un peu dans l'espace public, c'est cet élément-là est peut-être mal calibré, parce que la réalité, c'est pas sûr que bon, là, on parle de certains mécanismes légaux américains, ceux-ci c'est pas convaincant, ils ne sont pas toujours d'utilisation de façon convaincante, mais dans la mesure où le doute existe, et c'est là où la sécurité se place, c'est d'enlever le doute et donc aussi tout l'élément contractuel. Les avocats détestent le doute. Notamment, quand on signe des contrats, des choses, c'est des choses qui vont être énormément énervées de voir des zones d'ombre où le doute peut exister. Donc, c'est à cet espace-là, puis cette clarté-là, cette transparence-là, qui aussi est un élément important de comment exprimer la souveraineté qui est numérique dans l'occurrence.
Il y a des questions. Quand on parle de doute, le doute, on est capable de le quantifier un petit peu, même si le mot comme ça en tant que tel le permet pas. Mais il y a des questions qu'il faut se poser. C'est est-ce que l'acteur à qui je transmets mes données, est-ce qu'il a la possibilité technique d'accéder aux données? C'est assez facile de répondre à cette question. Est-ce qu'il a une capacité technique, le savoir-faire pour industrialiser, automatiser la copie, la récolte, la sélection de données dans les données que moi je lui donner. On connaît les capacités technologiques des hyperscalers. Je pense que la réponse est assez vite. Après, on peut se poser la question, c'est est-ce qu'il y a des services de renseignement qui sont puissants, qui ont des capacités? Je pense qu'aux États-Unis, la réponse, elle est assez vite trouvée. Est-ce qu'il y a une porosité entre le renseignement et les milieux économiques, entre l'intelligence économique et le renseignement? Là, je laisse les experts locaux répondre, mais j'ai ma petite idée. Est-ce qu'il y a un contexte international qui fait que certaines entités américaines pourraient avoir intérêt à accéder à ces données, etc. Il y a quand même des questions à se poser et la réponse ne sera pas stable dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a des questions où on va se dire bah non, en ce moment, le contexte fait que c'est peu probable, etc. Mais il y a des moments où le contexte fait que en fait, tous les signaux sont clignotants et on a besoin d'avoir cette agilité. Donc, du coup, nous, évidemment, on n'a pas un discours de dire il faut absolument fuir les hyperscalers. Je l'ai dit tout à l'heure, ils ont des offres de très bonne qualité, ils répondent à énormément de cas d'usage. Mais il faut apprendre à varier ses risques, à pas mettre tous ses œufs dans le même panier, et surtout à travailler son agilité et sa capacité à rester maître de ses choix. Et ça, c'est vraiment hyper important. Et après, nous, on est assez lucide sur nos technologies de public cloud. Comme je disais tout à l'heure, on ne cherche pas à inventer un nouveau public cloud différent. On cherche à avoir un public cloud qui répond aux attentes des clients, qui est facile à utiliser et qui répond à leurs besoins et à leurs attentes dans le métier, en cultivant les différences dont je parlais tout à l'heure, l'environnement, la souveraineté, etc.
Oui, puis c'est intéressant parce que l'espace où le débat a changé, puis tu en as fait un peu allusion, c'est qu'autant on pouvait à une certaine époque dire que la Chine, on avait une certaine certitude que le gouvernement chinois était capable, et même des outils légaux qui sont très clairs, ils n'ont aucun doute là-dessus, qui leur permet d'accéder au contenu de ce qu'il y a. Donc, de l'or, c'est le point de vue souveraineté, c'est d'ici, on ne va pas mettre des données en Chine qui ont un potentiel d'intéresser le gouvernement chinois, parce que le gouvernement chinois a les mécanismes légaux pour aller voir le contenu. Ça, c'était facile. On avait une cible très définie à l'époque. C'était facile. Maintenant, on se retrouve avec un pays qui prétendait être avec nous et qui a changé de jour au lendemain dans un ne plus être. Donc, c'est toute cette préoccupation-là et ce réveil qui, à mon sens, est brutal pour certains. On avait un partenaire qu'on peut considérer de confiance, puis c'est d'autant plus vrai pour les Canadiens que pour les Européens. Dû la proximité qu'on a et là, la frontière non protégée et la longue histoire qu'on a avec les Américains. Et du jour au lendemain, il y a une bascule qui, à certains égards, le gouvernement américain commence de plus en plus à ressembler au gouvernement chinois au niveau de tout ce qui est technologie et toute l'information qui circule dans leur infrastructure. Donc, c'est là où ces notions-là, puis c'est cette continuité dans le temps aussi qu'on l'a conservée et la transparence qui est nécessaire avec ça, là.
C'est ça. Bah, du coup, voilà, nous, on n'a pas de message contre les États-Unis ou quoi que ce soit. On est dans une logique de se dire, nous, on propose de la transparence, de la lisibilité, de la clarté à nos clients pour qu'ils aient toutes les cartes en main et qu'ils comprennent exactement quels sont les risques auxquels ils s'exposent. Et en particulier au Canada, puisque donc nous, on a une présence mondiale, on a 43 data centres sur tous les continents, enfin Amérique, Europe et Asie principalement. Après, on a des plus petits data centres en APAC et en Nord-Afrique, mais globalement, on a un acteur avec une présence mondiale. On a des gros data centres au Canada. On a cette volonté de tester notre modèle de souveraineté en France, là où la société a été créée, là où on a historiquement nos fondateurs, etc. Mais très rapidement, en fait, on duplique le modèle au Canada parce que on sent que culturellement, on a un certain nombre de points communs et du coup des produits et des approches marché qui marchent en France. Le marché canadien y est très réceptif et c'est d'autant plus en ce moment où on a ce contexte géopolitique. Mais c'était déjà le cas avant. Le discours et les explications qu'on donne au marché canadien ont toujours eu un écho assez similaire à celui qu'on avait en France. Du coup, effectivement, en France, on fait nos POC, on fait nos MVP, on lance les premiers démarches, et ensuite, une fois qu'on a rodé les produits et les offres sur le marché européen, on le déploie au Canada pour proposer les mêmes caractéristiques, et ça, on l'a fait sur quasiment tous les produits depuis qu'on a un gros data center à bord.
Oui, absolument. Puis c'est d'autant plus intéressant. C'est pour ça que ça fait plusieurs années que j'étais en discussion avec OVH à Montréal, techniquement, mais à Beauharnois dans les faits. Justement, parce que c'est très intéressant. Puis c'est des aspects qui me passionnent depuis des années, justement, ces éléments-là, puis d'avoir des définitions. Sur le marché européen, vous avez le Secnum Cloud, qui est un aspect qui se présente, parce que le gouvernement français est quand même assez actif dans la définition et dans les approches pour l'expression de la souveraineté. Comment cette approche-là se matérialise en France notamment et comment elle est potentiellement exportable? Parce que justement, tu mentionnais la capacité de vous exporter beaucoup de votre savoir-faire au Canada parce qu'il y a un intérêt pour celui-ci. Comment ça va se matérialiser et pouvoir s'exporter également?
Alors, oui, effectivement, en France, on a la chance d'avoir une démarche qui s'appelle Secnum Cloud, qui est un référentiel de sécurité qui est porté par l'ANSSI, c'est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Donc nous, on n'a pas de ministère de la cybersécurité en France. On a une autorité indépendante, enfin pas indépendante, une autorité qui dépend du Premier ministre en charge de ça. Donc on n'est pas organisé pareil, mais c'est un peu comme si c'était votre ministère de la cybersécurité qui a émis ce document qui décrit une liste d'exigences exigences à respecter qui sont assez basiques, c'est d'un niveau très élevé en sécurité, mais il n'y a rien de surprenant. C'est-à-dire, ça ne demande pas des choses étonnantes, ça demande d'être à un très bon niveau de sécurité. Mais par contre, ça implique des critères qu'on appelle de souveraineté, à savoir d'avoir les opérateurs qui sont, enfin, évidemment, les données et les serveurs qui sont localisés sur le sol européen, les opérateurs qui sont également sur le sol européen, donc pour faire l'administration, il n'y a que des gens qui sont localement, physiquement présents sur le sol européen, et derrière un process d'audit, et c'est ça qui est le plus dur avec Secnum Cloud, c'est pas le référentiel en tant que tel, quand on lit, il n'a pas l'air si compliqué, c'est que les auditeurs et ceux qui vont valider les démarches, donc DNC, ont un niveau d'exigence incroyable et sont ultra exigeants sur les moyens de contrôle qu'on met en œuvre. Ils vont aller revoir tous les contrôles qu'on met sur chaque flux métier et technique pour s'assurer que les chemins de flux de données sont maîtrisés, sont absolument connus en profondeur. Et quand on est sur des produits qui sont extrêmement compliqués, on est très vite sur des produits où il y a 200, 250, 300 flux différents à gérer. Et du coup, il faut être capable d'aller démontrer que chaque protocole crypto sur chaque flux est bien géré avec la bonne configuration. C'est un exemple, hein. Il y a 1900 points de contrôle dans le référentiel. Mais du coup, c'est un niveau d'exigence très élevé en cybersécurité. Du coup, ça garantit que le niveau de cybersécurité est très bon. Et ça enforce et ça vérifie qu'il y a un certain nombre de mesures qui permettent de garantir que le service est immunisé contre des accès d'États étrangers. Que du coup, on a une structure qui est à la fois juridique, organisationnelle et technique qui permet de garantir qu'un juge d'un pays tiers ne peut pas accéder des données sans passer par les procédures de collaboration internationale et de passer par un juge français, par exemple. Ou que des services de renseignement d'un État étranger ne peuvent pas nous solliciter en direct ou nous menacer ou pour obtenir les données. Donc c'est construit comme ça. Il y a des démarches au niveau européen pour essayer d'européaniser la démarche. Donc c'est une démarche qui s'appelle EUCS pour European Cloud Scheme, Cyber Security Cloud Scheme, qui est un très bon référentiel technique. On a essayé, avec un certain nombre d'acteurs, d'injecter les mêmes exigences en termes de souveraineté que celles qui sont présentes dans Secnum Cloud pour européaniser la démarche et avoir ces critères-là, ou au moins cette transparence vis-à-vis du marché sur comment sont opérées les offres. Il y a eu pas mal de réticences d'un certain nombre de pays européens à créer des leviers qui permettaient de challenger les opérateurs américains. Et du coup, en Europe, quand on n'arrive pas à se mettre d'accord, les choses traînent. Je sais pas comment c'est au Canada, mais quand on n'est pas tous d'accord, ça traîne un peu. Du coup, ça n'a pas abouti. Là, les discussions, évidemment, reprennent en ce moment, puisque le contexte a changé. J'ai discuté avec mes collègues canadiens de Montréal, et effectivement, vous avez aussi un certain nombre de réglementations sur le sujet. Je crois la loi 25, si ma mémoire est bonne, qui est l'équivalent, une sorte d'équivalent de notre RGPD. Et puis petit à petit, vous réglementez, vous légiférez sur la cybersécurité et la protection des données. Du coup, on voit que les trajectoires sont assez similaires. Et du coup, on a, nous, vocation à aller proposer au marché canadien les mêmes offres et les mêmes caractéristiques qu'on adaptera, évidemment, parce que c'est un marché spécifique avec des besoins spécifiques et une histoire particulière, notamment en termes de public cloud, puisque vous êtes très très utilisateur des offres américaines. Du coup, vous n'avez pas forcément la même historique que les clients français, mais en tout cas on est dans cette logique de capitaliser sur nos data centers locaux, nos équipes locaux et notre usine de fabrication de serveurs qu'on a au Canada aussi localement, pour aller proposer dans les mois et les années à venir tous les produits qui vont permettre d'avoir exactement les mêmes caractéristiques que celles qu'on offre à nos clients français.
C'est très intéressant, puis j'aime bien l'aspect qu'on prend. J'espère que cette fois-ci copier un modèle français qui fonctionne, puisque le Québec ne copie pas toujours les bons éléments français. Des fois, on a cette tendance-là à copier les choses qui sont un peu moins positives, mais celle-là, le Second Income, si on peut justement ramener ce genre de réflexion-là ici, ça va être super intéressant parce qu'on va commencer à amener dans le débat public des éléments intéressants. Ça fait un survol très haut niveau des différents éléments. Parce que je veux pas qu'on étire pendant parce qu'on pourrait étirer longtemps. Puis il y a beaucoup de sous-domaines qu'on n'a pas foiré, notamment l'utilisation du chiffrement ou d'autres éléments comme ça, que je garderai pour un deuxième épisode, justement, pour qu'on puisse avoir l'espace pour foirer davantage puis débattre un peu plus de ces éléments-là qui font partie des mythes qu'on entend régulièrement. Je te remercie énormément de ton temps, de ta contribution. C'est super intéressant. Le off a été super intéressant. Puis là, je suis un peu triste de devoir couper là parce que il faut que ça reste dans des temps raisonnables. Mais de pouvoir rediscuter dans un second volet serait très, très pertinent justement pour amener des nuances peut-être plus intéressantes.
Avec plaisir et merci pour les discussions. C'était très très sympa de pouvoir exprimer et expliquer ce qu'on fait, parce qu'on en est assez fiers, et c'est avec plaisir que je viendrai creuser certains sujets plus dans le détail dans quelques semaines.